La formation supérieure constitue en Chine, un pays qui totalise plus de 20% des étudiants de la planète, un enjeu majeur. L'université de Tsinghua, fondée en 1911 à Pékin, est l'une des deux universités les plus prestigieuses de Chine. À l'origine, c'était une école de préparation pour Chinois souhaitant faire un deuxième cycle dans les universités américaines. Alice Ekman fait partie de ces étudiants étrangers qui maîtrisent parfaitement bien le chinois. Elle est d'ailleurs complètement bilingue puisqu'elle y donne elle-même des cours. Alors après Sciences Po et la London School of Economics, elle aurait pu aller dans une grande université américaine. Elle a préféré la Chine. Elle nous dira pourquoi. On écoute l'entretien que j'ai réalisé il y a quelques mois à Pékin sur le campus de Tsinghua avec Alice Ekman. Durant à Tsinghua, est-ce que vous pouvez nous présenter l'université ?
Oui, donc c'est une grande université, il y a près de 32 000 étudiants, un peu plus, ce qui est énorme. Pour nous, pour la France, mais pour la Chine, c'est également une grande université en Chine, mais bon, c'est une taille raisonnable. Donc c'est une grande université par sa taille, mais aussi par sa réputation, puisque c'est une des meilleures universités de Chine. On considère qu'il y a deux excellentes universités en Chine, qui sont Tsinghua, donc celle-ci, et Beida, l'université de Pékin. L'université Tsinghua est plus réputée pour les sciences qu'on appelle pures, donc physique, maths, chimie, etc. Et Beida, plus pour les sciences sociales. Donc c'est une université qui a été créée en 1911, un peu sur le modèle américain, c'est-à-dire, on le voit à travers l'architecture du campus, une place importante donnée au sport, aux équipes, aux associations de l'université. Donc ce plan parascolaire, mais également de grosses structures pour la recherche, pour les cours. Donc voilà, c'est Tsinghua.
Mais d'où vient cette réputation ?
De plusieurs choses. Bon, on peut peut-être comparer avec les universités en France. Pourquoi nos meilleures écoles, nos grandes écoles sont réputées ? C'est aussi parce qu'elles sont sélectives. Et Tsinghua est très sélective. C'est une université très très sélective, c'est très dur d'y entrer. Déjà pour un étudiant, un lycéen chinois, c'est dur d'aller à l'université. Il n'y a que 22% d'entre eux qui peuvent avoir une place. Donc c'est pas facile. Et donc parmi ces 22%, il n'y en a que très très peu qui peuvent, qui ont le sésame, qui ont donc réussi le Gaoka avec un classement assez élevé pour pouvoir entrer à Tsinghua ou à Beida. Donc de fait, les étudiants qui sont ici sont très travailleurs, intelligents, bon ça... Quand on travaille en intelligence, ça dépend de notre définition de l'intelligence. Les moyens sont très importants également. On en parlera peut-être plus tard avec le financement des universités, mais on se rend compte qu'on peut vraiment faire un travail sérieux ici. Les moyens sont là, les laboratoires de recherche sont présents, la bibliothèque est très grande. Donc pour toutes ces caractéristiques, l'université est cotée. Et également, elle est cotée, ça c'est peut-être le plus important, c'est qu'une grande partie des hommes politiques chinois viennent de Tsinghua ou Beida, dont Hu Jintao, qui est le plus connu, qui vient de Tsinghua.
Ça veut dire que les cadres du parti passent par Tsinghua ?
Oui, pas tous, hein, mais par Tsinghua ou Beida. Et bon, il y en a d'autres, hein, ils viennent aussi d'autres universités plus ou moins connues. Mais c'est vrai que ça a contribué à améliorer l'image de l'université, c'est sûr. C'est comme Sciences Po en France, on cite les noms qui viennent de cette université-là pour finalement attirer d'autres candidats possibles.
C'est du marketing, ça. Voilà. Alors, la vie sur le campus, comment ça se passe à Tsinghua ?
C'est très agréable. On fera une visite tout à l'heure. C'est très agréable parce que bon, c'est une grande université qui est autonome, en fait. C'est-à-dire que c'est une petite ville où tout est accessible et on peut trouver de tout. Il y a un supermarché, une poste, un endroit pour acheter les billets de train. Les cantines, on n'en parle pas, il y en a tellement, elles sont énormes avec un choix vraiment impressionnant. Les gens vivent sur le campus, la plupart des étudiants vivent sur le campus, pas seulement les étudiants, mais aussi les professeurs. C'est quand même particulier. Avec leur famille, hein, avec leur famille. Et c'est vraiment une université autonome et calme, puisque tout le monde se déplace en vélo à toute heure de la journée, même en pleine nuit, il y a toujours des vélos. Donc c'est calme, très peu de voitures et une ambiance très conviviale, puisque tout le monde habite au même endroit, donc c'est très facile pour se rencontrer.
Alors justement, la vie sociale doit y être importante ?
Très importante, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est Tsinghua, donc c'est une université où les gens travaillent beaucoup, Donc il y a aussi une part importante de geek, comme on appelle, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps devant l'ordinateur ou alors dans la bibliothèque face à leurs livres, ou geek, c'est-à-dire aussi tout le pan jeu vidéo. Donc ça, c'est un aspect social. Mais non, l'aspect social le plus remarquable, c'est les sorties, les grandes sorties entre camarades de classe, comme on appelle ici tout le temps, au restaurant, au karaoké. ça peut être parfois des sorties quotidiennes pour certains. On mange toujours ensemble, on se recroise tout le temps forcément puisqu'on habite au même endroit. Et donc la vie sociale est développée, je dirais de plus en plus développée, puisqu'on est aussi dans le quartier de Udaoko où il y a une multitude de restaurants, de bars, il y a le métro qui est pas loin et tout ça il n'y avait pas avant et donc les étudiants en profitent.
C'est une véritable communauté.
Oui, c'est ça.
Alors, une fois qu'on a dit un petit peu tout ça, on mesure les différences entre les deux systèmes universitaires, le système français, mm-hmm. sans campus en général, bien mm-hmm. que maintenant ça se soit un petit peu plus développé, et le système chinois. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la comparaison des deux systèmes ?
Alors, la comparaison, elle peut se faire à plusieurs plans. Hein. Bon, au niveau social, c'est vrai que c'est la comparaison peut-être la plus intéressante. Il y a une vie sociale évidente en Chine, entre étudiants, et il n'y en a pas en France, ou très peu. Elle est limitée, c'est vraiment dû au manque de résidence universitaire, mais pas seulement aussi, c'est peut-être dû à un individualisme dont on pourrait parler. Ça, c'est une question plus intéressante, plus grande, qui est difficile de traiter en quelques minutes, mais je me demande si... cette ambiance qu'on retrouve à l'université chinoise, elle n'est pas également présente en dehors de l'université. Donc c'est sûr que cette architecture l'amplifie. Hein, on vit ensemble, donc forcément on s'entraide plus facilement, on se rencontre plus facilement. Mais c'est également vrai en dehors du campus. Donc peut-être que tout simplement l'architecture de l'université française n'est qu'un reflet de notre façon de vivre en général, que ce soit à l'université ou en dehors. Et c'est sûr que j'espère que prochainement les universités françaises vont se renouveler, vont se rénover, et on a beaucoup à apprendre de la Chine, des États-Unis, de l'Angleterre, et de tous ces pays qui ont un campus autonome.
Alors si on abordait le sujet du financement des universités, cette université, Tsinghua, a des particularités, il me semble.
Oui, alors la plupart des universités en Chine sont financées par le gouvernement, une grande majorité. Et Tsinghua est une exception parce que un tiers de son financement provient de fonds versés par les entreprises. Donc c'est une entreprise que Tsinghua elle-même a créée. Donc elle en a créé une cinquantaine. Et donc plusieurs d'entre elles sont cotées en bourse. Et forcément, ces entreprises représentent des ressources significatives donc pour Tsinghua. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des bâtiments aussi beaux et aussi grands dans cette université. Mais il faut dire que dans toute la Chine, les campus sont quand même vraiment corrects. Il y a des dortoirs plus sales que d'autres. Il y a des dortoirs où les étudiants en licence vivent à 8 par chambre. Alors qu'à Tsinghua, c'est 4 par chambre. Mais en général, c'est propre et il y a de quoi de travailler. Il y a les salles de travail, il y a surtout des grandes bibliothèques, des salles de sport. Donc on peut étudier correctement dans les universités chinoises. Et encore mieux à Tsinghua, du fait que c'est une université riche.
Alors, on vient de parler de dortoir, justement. C'est évident que si le plus petit dortoir, on est à 4, on est déjà à 4. Oui. En France, on est forcément tout seul. Oui. C'est peut-être là que réside le secret des choses.
Oui, enfin, bon, c'est difficile hein, de vivre à 4 aussi en Chine. Hein. C'est pas parce que c'est en Chine qu'on arrive forcément à vivre en groupe 24 heures sur 24 sans problème. Ça évolue. Hein. 4, c'est en... Bah, Tsinghua, c'est en... Donc en licence pour les premières, deuxième années. Après, en master, on tombe à 3 ou 2 par chambre. Et après, en doctorat, souvent, on est tout seul. Donc on considère finalement qu'il y a quand même un âge où on peut vivre tranquillement, dormir tout seul dans sa chambre. C'est sûr que le fait qu'on soit plusieurs par chambre, bon, c'est pas mon cas parce que les étudiants étrangers peuvent avoir des chambres simples, enfin seuls, peuvent vivre seuls. Mais c'est sûr que le fait de dormir à plusieurs change forcément la donne. forcément, on mange ensemble, on sort ensemble, et on fait attention à ne pas faire de bruit quand on rentre le soir. Et à ne pas rentrer trop tard non plus.
C'est l'apprentissage de la vie de groupe. Alors, ces étudiants, qu'est-ce qu'ils payent à l'université de Tsinghua ? Alors, d'abord, peut-être les Chinois et ensuite les étrangers ?
Alors, les Chinois, donc, ici, on répartit souvent les étudiants entre undergraduate et postgraduate en anglais. Donc, c'est vraiment calqué sur le système américain, donc, c'est-à-dire avant le master ou pendant et après. Donc avant, donc en licence, les Chinois payent en général, en moyenne, entre 450 euros et 600 euros par année, en fonction de la discipline qu'ils ont choisie et de leur université. Par contre, après, ça augmente. Après, donc au niveau master, on est à 1200 euros par mois. Voilà. C'est pour les étudiants étrangers peut-être. Donc les étudiants étrangers, il y a deux catégories. Là, il y a beaucoup d'étrangers qui profitent d'échanges ou de bourses. Dans la Tsinghua, surtout dans les bonnes universités, la Tsinghua est jumelée avec un nombre vraiment important d'universités étrangères, que ce soit américaines, françaises, britanniques, espagnoles, italiennes. Enfin, vraiment un grand nombre d'universités étrangères. Mais quand l'étudiant étranger ne bénéficie pas de bourses ou d'échanges, il paye, ça peut s'élever jusqu'à 3 000, 3 500 euros au niveau master et doctorat. Et en dessous, c'est un peu difficile pour moi de donner un chiffre exact, mais entre, je dirais, 1 000 et 2 000 euros.
Et dans cette somme, ce ne sont que les études ?
Bien sûr, que les études, les frais d'inscription, ce qu'on appelle. Ce qui se réduit presque à néant en France.
Ça commence à augmenter quand même. Malgré tout. Alors, comment se vit tous les jours compétition académique vers l'excellence ? Comment ça se vit quand on vient de la France ?
Vous voulez dire la compétition en elle-même, le poids de la compétition qu'il peut avoir ? Bon, moi, je suis un peu en dehors, puisque je suis étudiante étrangère, donc je ne me sens pas finalement prisonnière du système, puisque j'ai la chance de vivre en France. C'est-à-dire que si je rentre en France, je pourrais quand même trouver un travail. C'est plus facile qu'en France. Il y a moins de... La population est plus faible. Donc, il faut qu'on se rappelle où on est. On est en Chine avec une population énorme, hein, 1,3 milliard, selon les statistiques les plus minimes. Donc, c'est quand même énorme. Et en Chine, donc, je le disais tout à l'heure, seulement 22% des lycéens peuvent avoir une place à l'université. Et il faut aussi savoir qu'avoir maintenant un diplôme, c'est-à-dire que niveau licence, ne mène presque à rien maintenant. C'est très difficile de trouver un travail en Chine. Il y a tellement de diplômés que finalement, être diplômé en Chine, oui, et alors ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas forcément te donner un travail tout de suite.
Ça veut dire qu'il y a du chômage de diplômés.
Ah bah oui, mais ça c'est très très répandu et c'est un problème majeur maintenant en Chine. Pourquoi c'est compétitif ? C'est pas parce que c'est pas pour le plaisir d'être compétitif, c'est pas pour être le premier de la classe, c'est pas pour faire mieux que l'autre ou par simple esprit de compétition sportive comme on pourrait le penser. C'est vraiment parce que c'est difficile. On est dans un pays où si on ne se bat pas, personne va vous donner quelque chose puisqu'il y a tellement de monde qui se trouve dans la situation vraiment exactement identique à la vôtre. Qu'une situation peut être bonne, mais si elle est bonne et qu'elle est partagée par beaucoup de monde, elle est plus avantageuse. Donc c'est vraiment ça, c'est un problème. Par exemple, il y a des exemples concrets. Hein, il y a des parents qui ont tout sacrifié pour leurs enfants, qui ont économisé toute leur vie, qui font des travaux durs, qui ont économisé beaucoup, qui vraiment, leur espoir réside dans le futur de leur enfant. Et cet enfant... travaille beaucoup, étudie beaucoup, il arrive à passer tous les échelons du plus bas au plus élevé, il arrive, il a son diplôme, et une fois qu'il a son diplôme, il se retrouve avec un travail où il gagne moins que son père, qui lui travaille par exemple à l'usine ou chauffeur de taxi, il a un travail assez difficile, et ça c'est possible, c'est courant. C'est sûr que si on sort de Tsinghua ou Beida, on est un peu plus chanceux que les autres, mais la compétition est toujours rude.
Comment ça se passe avec la hiérarchie ?
C'est-à-dire avec les professeurs, c'est différent de la France, c'est sûr. Hein, c'est peut-être aussi lié au thème de la face, ne pas perdre la face. On ne va pas contredire un professeur, en tout cas pas directement, devant toute la classe. Et ça, je comprends tout à fait. Hein, quand on vit en Chine plusieurs mois, même plusieurs années, on s'en rend vite compte, que ce soit un professeur ou quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que donc cette hiérarchie se retrouve en classe. Il y a moins d'interaction avec le professeur. Le professeur, le cours est d'autant plus magistral, enfin, est vraiment magistral. Le professeur dit une chose, on prend en note, on écoute. Parfois, il y a quand même un espace pour réfléchir et pour débattre, mais c'est jamais un débat frontal. C'est toujours par le détour, le contournement, oui, mais et encore. Et c'est sûr que quand on fait des études en France et qu'on arrive en Chine, il y a un certain décalage.
Combien il y a d'heures de cours pour une année scolaire ?
Alors, je peux parler pour moi, peut-être, donc au niveau master et doctorat. Donc, ce que je vois, c'est que finalement, on n'a pas tant d'heures de cours que ça. Parce que c'est assez flexible, on peut choisir le nombre d'heures. Parce qu'en fait, il y a un nombre de crédits à valider, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, on peut le valider, par exemple, en un semestre ou en un an. Donc, c'est sûr que si on le valide en un semestre, on aura beaucoup plus d'heures de cours qu'en un an. Après, pour faire une moyenne, en master et en doctorat, par exemple, en relations internationales, on a à peu près entre 7 et 10 heures de cours par semaine. Ce qui pourrait ne pas paraître beaucoup pour la France, mais quand même, on a énormément de travail à faire par derrière, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. D'ailleurs, c'est comme en Angleterre également. Peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail en amont. Et voilà. Mais c'est vrai que les étudiants sont quand même très travailleurs ici. Hein. Je les vois beaucoup étudier. Mais c'est aussi encore un rapport au travail qui est différent. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être passer toute la journée à la bibliothèque, puis en même temps dormir, envoyer des SMS, repasser voir des amis, puis retravailler. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est en même temps un lieu de vie. Puisqu'on est ici, donc on ne donne pas un horaire précis. On est toujours disponible pour travailler, en fait.
Oui, mais ce qui fait qu'après, dans le travail, rémunéré, on compte pas ses heures et on fait des heures supplémentaires, voilà, pas payées.
En même temps, on est toujours sur QQ, qui est le MSN. Bon, ça, c'est aussi un outil de travail, qui est un chat plus répandu en Chine, ici. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, on fait plusieurs choses en même temps.
Oui, il n'y a pas de barrière entre la vie privée, le travail, etc. En tout cas, pas quand on est étudiant, quoi. Ça, c'est sûr. Une journée à Tsinghua, il y a quelques anecdotes, une journée d'un étudiant, la vôtre ou celle de vos amis, des anecdotes.
Anecdotes marrantes.
Oh bah oui, plutôt, oui.
Comme ça, là maintenant, j'en ai pas forcément, mais on s'amuse quand même énormément. c'est difficile de penser à quelque chose, mais tous les jours, vraiment, j'ai jamais autant ri de ma vie qu'ici. Pourtant, c'est très dur. Encore une fois, c'est très compétitif. Les gens ont la pression, non seulement parentale, mais la pression de la société, des professeurs et de l'avenir. Ils ont peur de l'avenir pour trouver un travail. En même temps, on est toujours ensemble, donc on a toujours des occasions de rire. Il y a des innombrables soirées au restaurant. Et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup au resto, au karaoké. C'est quand même vraiment. Les Chinois sortent peu en boîte encore, un peu en bar et en boîte. Ils sortent, mais c'est sûr qu'il y a. C'est pas encore trop la tendance aussi pour une question de moyens, tout simplement. Et oui, enfin, c'est-à-dire que des petits instants du quotidien, des anecdotes au quotidien, il y en a des millions, que ce soit en vélo ou en rentrant après les cours. C'est plus une atmosphère qui est vraiment très agréable et qu'on retrouve vraiment à chaque instant de la journée. Voilà, du fait que c'est un campus autonome, qu'on se déplace en vélo, qu'on mange ensemble et qu'on dort presque au même endroit.
Voilà. Donc une atmosphère conviviale, pour résumer.
Oui, très conviviale, oui.
Alice Ekman, merci.
Merci.